Nous sommes en juin 2017 et vous écoutez l'épisode 88 chronique de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et ce mois-ci, je suis avec mon compère habituel, Père Castor. Salut Max.
Bonsoir Dédé Schutz, comment vas-tu?
Ça va, chaudement?
Oui.
Cette canicule.
Ouais, c'est là qu'on se dit, heureusement, c'est le dernier épisode de la saison. Hein.
Voilà. Et on a pour nous accompagner aujourd'hui le petit nouveau Seb. Salut.
Salut tout le monde.
Ça va?
Ben, ça va bien. Chaudement aussi, mais ça va.
Chaudement aussi, ouais. Merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et c'est bien philibernet.com et non pas philibert.net comme on l'a entendu dans une chronique précédente. Il y a un de nos chroniqueurs qui s'est un peu trompé sur l'adresse. Mais normalement, quand on cherche
sur Google, ouais, on tape
Philibert. Alors, je sais pas si c'est si moi il m'a repéré et maintenant il me le met directement.
Je crois que tu l'as en favori surtout. Donc,
ouais. Donc voilà. Et un grand merci à nos tipeurs de soutenir ce podcast. Et merci à la famille Blue pour son don en nature. Alors, on va commencer avec quelques actus du podcast. Maxime, on a eu des notes sur iTunes.
Absolument, c'est vrai que ça faisait quelques épisodes qu'on n'était pas retourné sur iTunes pour voir si jamais des commentaires ou des notes avaient été laissés. Alors, on avait un premier commentaire de ZZ. Alors, on s'excuse si on ne l'a pas cité plus tôt, mais ce commentaire date du 21 mars et il voulait juste être cité au prochain podcast avec un petit smiley. Donc, chose accomplie.
Bah, il a mis 5 étoiles au moins.
Absolument, il a quand même mis 5 étoiles.
Alors, on le cite, sinon on ne le cite pas.
Et on a également eu un commentaire de Beldaran21 qui nous a également mis 5 étoiles et qui nous remercie et qui cite, je le cite, c'est un excellent podcast très varié qui traite du jeu de société, des formats différents qui permettent d'aborder le J2S sous toutes ses formes. Merci également pour ton commentaire.
Ok, bah merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles sur iTunes. Ça fait toujours plaisir et ça nous fait remonter dans les statistiques. Ou sur Stitcher, je crois qu'on est maintenant, et sur Google Podcast. Si vous nous écoutez sur Google Podcast, alors pas en France, parce que c'est pas disponible en France, mais...
Et sinon, il faut aller sur google.qc.
Faut avoir un proxy pour être un VPN pour être au Québec. Mais comme Fendoel, il voyage beaucoup. Quand il est allé au Québec, il en a profité pour nous inscrire. Ça fait toujours.
C'est ça. Donc c'est une petite inscription pirate en fait. Sur...
Non, il était dans un territoire qui était
couvert par le service.
Il n'est pas resté longtemps, mais
ça suffisamment suffit. Longtemps pour inscrire.
Voilà, c'est ça. Et on le remercie d'ailleurs pour ça. Donc c'est bientôt la fin de saison. L'été arrive. Bon, fin de saison. On a encore. Un hors-série d'été qui va venir normalement cet été. Et on a toutes les interviews que Flavien et toi, Max, vous avez faites à des bretzels et des jeux qu'on va vous diffuser tout au long de l'été.
Alors, ce qu'on s'est dit avec Flavien, c'est qu'on va les diffuser au compte-gouttes.
Ouais, voilà, je
on
pense.
On va peut-être essayer une par semaine. Alors, comme ce sont des interviews assez courtes, maximum une demi-heure. Voilà. Bon, il y en a certaines qui ont un petit peu plus duré, mais... on devrait pouvoir les monter rapidement et les diffuser. Sachant qu'on a, sur le temps d'enregistrement brut, on est à plus de 10 heures sur les deux jours.
Ça va.
Donc au final, on n'aura pas beaucoup joué.
Je les ai vus bosser, ils n'ont pas chômé, effectivement.
Et toi, tu as joué alors pendant ce temps-là?
Ouais, un jour sur deux, ouais, j'avoue.
Moi aussi, je ne suis pas passé longtemps, mais je me suis dit, allez, pour une fois que je peux jouer sur un salon, je vais en profiter.
Bah, tu as beaucoup squatté les tables avant, parce que je ne t'ai même pas vu sur le week-end.
Ouais, moi je t'ai pas vu. J'ai vu Flavien parce que bon, il était à côté de la buvette.
Ah ouais, d'accord.
Ah,
ouais.
Ah c'est ça.
Le point de repère.
C'est vrai qu'on était bien placés. On remercie Philibert de nous avoir mis un bel espace. En plus, on avait sorti notre dépliant, enfin notre comment on appelle ça
Un kakémono.
Un kakémono, voilà. Pour les connaisseurs, quoi. Donc voilà, nous on prépare déjà la prochaine saison. Donc si vous voulez participer, nous faire une chronique tout au long de l'année, faites-nous un petit message et on.
Voilà, vous pouvez nous contacter soit sur Facebook, soit sur Twitter ou alors par mail.
Par mail, contact@proxy-jeux.fr. Voilà, ou si vous avez quelqu'un que dont on ne parle pas assez dans le monde du jeu sur les blogs ou qui est un peu boudé par les blogs, les podcasts, mais que vous dites tiens, cette personne-là, ça pourrait être intéressant à voir parce qu'il a beaucoup de choses à dire sur le monde du jeu. Bah, dites-nous-le aussi en commentaire de ce billet ou par mail et on va voir ce qu'on peut faire quoi. Donc on va passer ensuite aux actus. Alors l'actu toute fraîche de hier, le mois dernier on a fait les nominés au Spiel.
Ah, puisqu'on avait enregistré le jour même
voilà.
De la sortie des nominés.
Voilà, top dans l'actu. Et,
donc, on réitère.
Voilà, ils ont annoncé, donc juste avant notre podcast, ils ont dit, oh, nous on avait dit qu'on enregistrait ce soir, et ils ont dit, oh,
voilà.
Il faut qu'on l'annonce juste avant pour avoir une bonne visibilité pour notre jeu, enfin pour notre prix. Quoi.
Bah, et donc, déjà que la plupart des nominations, ils les ont copiées sur... les chroniques proxy jeux.
Bah voilà.
En plus, ouais, donc on a été la source d'inspiration principale.
tout se tient.
Et voilà, et donc le vainqueur, c'est High School.
Donc dans la catégorie
Kinderspiel pour les enfants. Donc High School, tu y as joué toi?
Oui, j'avais fait une partie. Bon, mon fils est un peu grand maintenant pour le Kinderspiel, mais j'avais fait une partie. Bon. Moi, j'ai pas plus apprécié que ça, mais je sais qu'il y a pas mal de monde qui aime bien.
Mais est-ce que tu aimes les jeux de pichenette ou pas forcément?
Alors, dans la catégorie jeu de pitchnet, je préfère largement Pitchcar.
Pitchcar, je ne.
Ouais, bah, c'est un petit jeu de course avec des petits véhicules en bois, des petits,
ah, oui,
des petits disques en bois, et puis on pitch dedans pour les faire avancer.
Alors, moi, je suis très fan de Flick Them Up
oui.
En jeu de. Alors, même si techniquement, c'est pas des pitchnets parce que. T'as pas le droit de faire avec ton doigt et ton index en même temps, c'est juste l'index
qui te l'index, ouais.
Ah, donc c'est un coup d'index.
Ouais, c'est un
coup d'index. Le terme exact, je sais pas.
C'est une. Je sais plus, il y a un terme.
Pichenette, je sais pas exactement ce que c'est, mais.
Bah, une pichenette, tu peux faire ressort avec le pouce normalement.
Ouais, selon les règles officielles de la fédération de pichenette.
Internationale de pichenette.
Donc voilà le. Ben, je pense que c'est surtout le fait que tu joues dans la boîte avec des cul. Enfin voilà, c'est, ben, un c'est peu des culbutos.
Les culbutos, ouais, c'est surtout ça. Du et coup, que c'est pas évident. Après, j'ai vu des vidéos sur internet où il y a des gens qui étaient vraiment doués et qui arrivaient un peu à faire ce qu'ils voulaient.
Ouais, ils peuvent faire des sacrés pingouins. Courbes, des sacrés virages. Ouais. Hein.
Bon, pas sur une première partie. Hein. Ou alors, je me suis vraiment mal débrouillé, mais...
moi aussi, j'avais du mal.
Ça fait un peu penser au jeu Subutéo, tu sais, le jeu de foot, là, où t'avais aussi les bonhommes sur...
Ouais.
Bon, ils n'étaient pas aussi lourds, donc en termes de déplacement, c'était peut-être pas pareil.
Ouais, mais surtout, là, il faut que tu passes en dessous de certaines portes, et c'est pas...
Ouais, l'espace n'est pas très large.
Ouais, c'est pas facile pour passer, quoi. Toujours est-il... qu'il a gagné, donc allez quand même y jeter un coup d'œil si vous êtes si vous aimez bien les jeux de pichenette plus que nous quoi.
Moi j'avais joué un jeu de pichenette, c'était Ascending Empires. Donc ça c'était un jeu dans l'espace où,
c'est moins pour les enfants par contre.
Ouais, c'est un peu plus, parce que t'as aussi un petit peu de gestion à l'intérieur, parce que tu vas développer tes technologies. Et je sais que j'avais eu du mal à le trouver en. Bah déjà, il était plus édité le jeu, il avait pas.
Il était qu'en anglais en plus.
Ouais, il avait pas été localisé, ouais, il était édité par Zeman. Et je l'avais acheté sur un site en Malaisie. Donc j'ai été allé le chercher très loin.
Toi, tu vas toujours chercher loin, il y a ton.
Ma femme
ton
aussi,
3...
oui, c'est ça ce que t'allais dire.
Non, pas forcément. Pas de vie privée là, mais. Non, mais ton 3, tu l'avais aussi acheté sur une boutique.
En Belgique, ouais.
En Belgique.
Bah, c'est pareil, il était plus édité à l'époque.
Ah là là. Ces jeux qui ne sont plus édités.
Ouais, alors qu'en fait, on peut les trouver sur Ocaseo assez facilement.
C'est vrai.
Pour certains, en tout cas.
Ou en brocante.
Ouais.
Ok, donc on va commencer ce qui nous amène là, les chroniques. Alors, on va commencer avec toi, Père Castor. Tu nous parles de...
Roll for the Galaxy.
Roll for the Galaxy, mais pas que.
Et son extension également, son extension Ambition. Et là, je sens un petit troll de votre part, puisque sur la table, je vois la boîte de Race for the Galaxy. Donc, c'était pour lancer le débat, est-ce que Race est mieux que Roll ou inversement?
Non, c'était pour surélever un micro.
Ah d'accord. Et finalement, t'as pris la boîte de Carcassonne.
Voilà, on reste dans le classique.
Ouais, Roll for the Galaxy, que j'ai découvert sur le tard. J'ai attendu qu'il soit localisé en français, donc
en français.
Il est sorti chez Gigamic. Et je regrette pas, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué, Un jeu que tu peux jouer très rapidement, bah, le fait que tout le monde puisse jouer en même temps aussi, ouais. les parties, ouais. elles sont très rapides. J'ai souvenir d'une partie avec un ami, lorsque l'extension est sortie, on s'était dit, tiens, on va tester toutes les configurations de départ, en fait, avec les mondes de départ. Et au final, on a pu tester, on a fait 5 ou 6 parties d'affilée dans la même soirée. Et la partie, ouais, 20 minutes maximum, donc c'est très nickel. Rapide.
Mmh. Et en fait, on y a joué pas mal avec les collègues le midi.
Ouais.
Et effectivement, on arrivait, alors pas les premières parties, puisque le temps d'intégrer les différentes icônes, etc.
Mais les icônes, c'est les mêmes que
Non, je sais pas, j'ai très peu joué à Race.
Ouais, tu retrouves les mêmes iconographies pour les développements, pour les planètes.
Ouais. Okay. Donc, bon, il est quand même... une ou deux parties de pour intégrer les icônes qui sont pas évidentes au début, mais après finalement c'est un coup à prendre et ensuite ça roule tout seul.
Moi je le trouve quand même beaucoup plus abordable que Race.
Oui.
Parce que bon, déjà le fait que tu puisses enchaîner de la production de ressources et derrière de la consommation pour tout de suite soit en retirer l'argent ou soit en retirer des points de victoire, ça te permet quand même d'enchaîner les...
Ouais, mais c'est ça le sel de Race for the Galaxy, c'est que faut d'abord produire et en fait tu peux pas tout faire dans le même tour, quoi. C'est ça le petit,
ouais, c'est le petit point stratégique, le un peu délicat point, voilà. Mais en plus il est bon, le fait qu'il y ait des dés, t'as cet aspect peut-être un petit peu plus ludique que seulement manipuler des cartes, et je trouve aussi que les effets des cartes sont un peu moins tordus dans Roll for the Galaxy, ouais, comparé à Race.
Dans l'extension, je sais pas, mais c'est vrai que dans le jeu de base, finalement, il y a rien d'extravagant.
Bah, au final, il y a pas, il y a surtout des mondes de départ dans Ambition, donc les tuiles doubles. Là, il y en a une panoplie. Après, des tuiles de jeu que tu vas piocher dans le sac, il y en a, je crois, que 5 ou 6, donc ça reste assez peu.
Une couleur de dé en plus. Enfin, on va voir ça dans la chronique.
Bah, on vous laisse écouter et on peut continuer à en discuter juste derrière pour pas tout vous dévoiler.
Tout vous spoiler.
Voilà, sinon la prochaine Top 500, je la fais en live, en discussion.
Ok, ben on va écouter ça tout de suite.
Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top 500 BGG. Alors comme c'est le dernier épisode de la saison, je vais vous faire un petit bonus. Je ne vais pas vous parler d'un jeu, mais d'un jeu et de son extension. Bon, voilà, c'est bon à prendre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Roll for the Galaxy. C'est un jeu de Hui Hua Huang et Tom Lehman. Le jeu est jouable de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 40 minutes maximum lorsqu'on connaît bien le jeu. Et il se place à la 49e place au classement BGG. Alors j'en avais déjà un petit peu parlé lors de la saison précédente, mais pas en détail, et Olivier nous avait déjà fait une présentation dans l'épisode numéro 64. Mais entre temps il s'est passé des choses. La première, c'est qu'il a été traduit par Gigamic, et son extension, qui s'appelle Ambition, a également été traduite par Gigamic et est sortie en début d'année. Alors Roll for the Galaxy, c'est un spin-off de Race for the Galaxy, donc on va retrouver des mécaniques de jeu similaires et surtout un même univers, sauf que là, l'ensemble des cartes ont été remplacées par des dés. Et si vous aviez un petit peu de mal avec l'iconographie, rassurez-vous, elle est toujours présente. Donc le but va être similaire que dans Race for the Galaxy, à savoir qu'il va falloir développer son empire en construisant soit des tuiles technologie, soit des tuiles planètes qui représentent les mondes colonisés. On va démarrer la partie avec au total 3 tuiles, 2 tuiles planète et une tuile technologie. En termes de matériel, en fait, on a une tuile double qui comporte une planète, une technologie, et vient s'ajouter une autre tuile planète. Nous allons également démarrer la partie avec des dés de départ. Donc ces dés qui sont de couleur blanc ont sur chacune de leurs faces les différentes actions disponibles dans le jeu. À savoir, au total, il y a 5 actions disponibles dans le jeu. Et petit à petit, au fur et à mesure où l'on va coloniser des mondes, on va pouvoir récupérer des dés d'autres couleurs qui représentent, on va dire, des dés spécialisés. On va avoir des dés militaires, on va avoir des dés génétiques, des dés aliens, etc. Et les différentes phases de ces dés sont différentes. Et donc au début de notre tour de jeu, on va récupérer l'ensemble de ces dés que l'on va acheter à l'aide de notre argent. Au minimum, on pourra toujours acheter au moins un dé, hein, sinon on va être bloqué en termes d'action. On va discrètement jeter les dés derrière notre paravent et on va les affecter aux différentes actions. Alors derrière notre paravent, on a une petite tuile qui représente les différentes actions disponibles et on va disposer en colonnes les dés qui ont la même face que ces actions. Alors bien sûr, en début de partie, on va être assez dépendant du hasard puisque les dés blancs ont quasiment toutes les actions en nombre égal. Et au fur et à mesure de notre développement, des technologies que l'on va développer qui vont nous permettre de modifier entre guillemets les faces des dés et le fait de coloniser des planètes qui vont nous rapporter des dés supplémentaires d'autres couleurs, qui ont notamment des faces joker, on va pouvoir avoir un contrôle très fin sur les actions que l'on sélectionnera et on sera moins dépendant du hasard lors des lancers de dés. Alors la mécanique, c'est un système d'activation partagée, un petit peu comme dans Puerto Rico, San Juan ou Race for the Galaxy. Donc on va avoir un système d'activation partagée. Chaque joueur va décider d'activer une action. Et par effet de bord, je vais pouvoir profiter des actions activées par les adversaires, si bien sûr j'ai des dés positionnés sur ces actions. Donc je résume très rapidement les différentes actions. Donc on va pouvoir explorer pour récupérer de nouvelles tuiles à construire ou pour gagner de l'argent. On va pouvoir développer les tuiles technologiques. On va pouvoir coloniser de nouveaux mondes. Sur les mondes que l'on a déjà colonisés et qui sont producteurs, on va pouvoir déposer des marchandises, qu'ensuite on va pouvoir expédier, soit pour des points de victoire, soit pour de l'argent. Alors du coup, ce que j'aime bien, c'est que au moment où on va jeter les dés, ben, chacun va faire sa petite cuisine derrière son paravent. Alors bien sûr, il n'y a aucun intérêt à, entre guillemets, tricher et à modifier les phases de nos dés, hein, puisque là, on peut pas montrer les actions qu'on choisit, puisque car cela fait partie de l'interaction indirecte, puisqu'on va essayer de deviner, tiens, quelle est l'action principale que va activer un de mes adversaires. Du coup, est-ce que c'est je vais en activer une autre pour profiter des autres dés qui sont dans la colonne que mon adversaire va activer, etc. Il y a une petite tension qui va se mettre là-dessus. On va essayer de deviner par rapport au tableau de l'adversaire. Tiens, il a commencé à coloniser un monde. Est-ce qu'il va terminer la colonisation? Du coup, je ne vais pas moi-même activer la colonisation. Donc, il y a presque du bluff et de la devinette indirecte qui peut se mettre en place lorsqu'on joue. Bon, là, c'est déjà lorsqu'on atteint un niveau un petit peu subtil de jeu. Mais avant de choisir ses actions, il faut toujours regarder où en sont les adversaires puisque ça va potentiellement nous orienter.
Alors la thématique de jeu peut paraître assez abstraite, mais il y a quand même un gros effort de thématisation qui a été fait, notamment en termes d'illustration des tuiles planètes et des tuiles technologies, et également aux différents noms qui ont été donnés à ces tuiles. Surtout pour que le nom colle avec l'effet soit de la planète, soit de la technologie. On se retrouve pas comme un jeu pur à l'allemande où il y a uniquement l'effet des tuiles ou des cartes qui sont sans aucun texte thématique qui est rajouté. Comme dans les châteaux de Bourgogne par exemple, où on vend des marchandises de différentes couleurs mais sans savoir ce que c'est. Là au moins les marchandises ont été qualifiés avec un nom, donc on a des marchandises nouveautés, des marchandises rares, des marchandises génétiques ou aliens par exemple.
Alors en termes de matériel, on a énormément de dés dans la boîte de jeu, c'est ce qui explique aussi le prix un petit peu élevé du jeu, hein. Donc on va avoir un jeu aux alentours de 50 euros. Et on dispose également d'un grand paravent, bon c'est pas aussi grand qu'un paravent de maître de jeu dans un JDR, mais c'est quand même un paravent assez imposant qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les jeux de plateau. Alors sur ce paravent, on a toutes les indications concernant les différentes règles et les différentes phases, et on a également un tableau qui va nous répertorier le nombre de faces de chaque action sur les différents types de dés. Du coup, on peut s'amuser comme ça avec les probabilités. Si jamais, par exemple, on souhaite, lors de notre prochaine action, faire de la colonisation, eh ben on va plutôt s'orienter sur les dés militaires, parce qu'ils présentent plus de fois cette action. Alors sachant que certains dés comme les génétiques ou les dés aliens ont plusieurs fois une face joker que l'on va pouvoir déposer dans n'importe quelle action.
Alors ce que j'aime beaucoup dans Roll for the Galaxy, alors pour une fois sur la boîte de jeu ils ont été un petit peu trop pessimistes en termes de durée de partie.
Il est donné pour 45 minutes de jeu, mais comme c'est un jeu où en fait on joue de manière synchronisée, donc tout le monde résout ses actions en même temps, ben qu'on soit 2 ou 5 joueurs, la partie n'est pas d'autant rallongée. Et une fois qu'on est bien huilé avec la mécanique de jeu, et ben les parties peuvent être très très courtes. On peut descendre même jusqu'à 20 minutes de partie, c'est tout à fait faisable. Alors si vous connaissez déjà le jeu Roll for the Galaxy, maintenant vous vous demandez peut-être qu'apporte cette extension. Alors déjà, on va retrouver beaucoup de nouveaux mondes de départ. Donc ça va nous permettre d'avoir de la rejouabilité, de tester de nouvelles configurations de départ pour élaborer de nouvelles stratégies. Alors là, mon ami Flavien dirait que c'est de la fausse rejouabilité. Mais je vais de suite le rassurer parce que il y a quand même de nouveaux éléments qui apportent de nouvelles mécaniques. Alors ensuite, on va avoir de nouveaux dés. Donc deux nouvelles couleurs de dés vont être introduites. D'abord, on va démarrer avec un dé leader, donc un dé de couleur noire. Et certaines faces présentent deux icônes actions que l'on pourra affecter du coup à l'une de ces deux actions. On va également avoir des dés orange, qui sont des dés dits entrepreneurs, qui sont spécialisés dans la production et la consommation de ressources.
Et ces dés, tout comme les dés noirs, présentent une icône dollar sur certaines des faces qui vont permettre de pouvoir réutiliser directement ce dé le tour suivant sans avoir à le racheter. Alors cette mécanique aura tendance à un petit peu accélérer le jeu puisqu'on aura moins tendance à avoir des tours entre guillemets morts où on se contente d'avoir qu'un seul dé dans son gobelet. La dernière mécanique qui se rajoute dans l'extension, ce sont les objectifs. En début de partie, on va sélectionner 6 objectifs que l'on va pouvoir réaliser. Donc on aura des objectifs divers et variés, comme coloniser des mondes de chaque couleur, acquérir un certain nombre de dés, etc., etc. Et dès que un ou plusieurs joueurs dans le même tour réalisent cet objectif, ils vont récupérer des jetons talents associés. Et ces jetons, soit ils seront conservés en point de victoire pour la fin de partie, soit ils vont représenter un dé bonus qui sera utilisable une seule fois pour réaliser une action. Alors personnellement, moi je ne joue plus qu'avec l'extension. Éventuellement, il m'arrive de ne pas mettre les objectifs lorsqu'il s'agit de parties d'initiation. Alors j'aime beaucoup voir les différentes combinatoires qu'on a pour les tuiles de départ, et ça m'intrigue toujours de savoir, tiens, quelle va être la stratégie adoptée avec ce type de configuration. Et vu le nombre de combinatoires totales, eh ben, ça fait énormément de possibilités de parties. Alors pour conclure, Roll for the Galaxy est assez clivant auprès des joueurs de race. Certains joueurs chevronnés de race n'ont pas vraiment aimé le jeu Roll, peut-être à cause du hasard que l'on contrôle moins, puisqu'il y a à la fois le hasard de la pioche des tuiles et le hasard des dés. Mais personnellement, moi je le trouve un petit peu plus fun et également un petit peu plus simple. Parce qu'il y a certains enchaînements dans Race for the Galaxy qui sont quand même un peu tordus et on peut vite se retrouver un petit peu bloqué dans sa réflexion. Donc pour ma part, je dirais que Roll for the Galaxy est quand même plus accessible que la version carte Race. Bon, surtout lorsqu'on joue avec les extensions de Race for the Galaxy. Eh bien, quant à moi, je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous dis à la saison prochaine et d'ici là, roulez bien!
Ok, merci Maxime pour cet avis sur Roll for the Galaxy.
Et... Par contre, on ne pourra pas l'emmener à la plage hein, parce que il faut quand même une surface de jeu adéquate, on va dire, pour jouer.
Et puis les dés sont assez petits, on risque de les perdre.
Voilà, tu les fais tomber dans le sable, c'est foutu.
Mais est-ce que moi, je vais dans une zone assez venteuse en vacances, est-ce qu'on peut jouer avec du vent? Est-ce que les tuiles sont assez épaisses où il y a beaucoup de cartes ou c'est des tuiles?
Non, c'est que des tuiles.
C'est que des tuiles. Par contre, les paravents ils risquent de foutre le camp s'il y a une rafale de vent.
Ah, ça, oui. Ça c'est parce que les problème. Ouais, ça prend le
les
vent.
Les paravents sont assez hauts, tu vois.
Ok.
Moi, je disais dans la chronique, je crois que c'est un des jeux où t'as les plus hauts paravents. Enfin, non, hormis les jeux à la Mysterium hein, ou là.
Mais non, si je dis pas de bêtises, ils sont. C'est pas les mêmes dans la version originale anglaise. Ils sont plus petits les paravents.
Ah ils ont upgradé le. Oui, parce que j'avais souvenir qu'ils n'étaient pas super grands sur la version anglaise. Mais non, c'est peut-être une petite amélioration de Gigamic.
Alors après, il faut faire attention avec les gobelets, hein, puisque comme c'est un jeu où les gobelets sont fournis avec la boîte de jeu.
Faut pas boire dedans, c'est ça.
Ouais, bah, ou alors
c'est pas le même jeu.
Ou alors faut pas ranger les dés à l'intérieur, parce que ça m'est arrivé dans une partie où il y a un joueur, il a foutu tous ses dés dans son verre à boisson.
Ah c'est. Non, moi je pensais que comme dans c'est quoi Century
la route des épices.
La route des épices, t'as les petits bols aussi.
Ouais, tu confonds ça avec le bol de cacahuètes.
Le bol de cacahuètes. Ouais. Vous avez des cacahuètes carrées.
C'est ça. Je pense que tu laisses une molaire là, si tu croques dedans.
En parlant de jeux à manger, on va écouter Fendoel qui va nous parler de Picomino, le jeu parce qu'on mange des vers de terre. Non, faut pas les manger les vers de terre dans le.
Ah, on peut essayer. Je pense que c'est plus digeste que les cubes, mais.
Non, mais dans le jeu, c'est quand même les poules qui mangent des.
C'est
le truc. Donc on reste dans le.
Et après, nous, on mange les
dans
poules.
Dans le nourriture. Voilà.
Ouais.
Donc c'est un peu comme si tu mangeais des vers de terre.
Ouais, par transitivité, ouais.
Voilà. Ben, on va écouter Fendoel nous donner son avis sur la version numérique de Picomino.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, je suis Fendoel. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plateau Numérique. Aujourd'hui, le jeu dont je vais vous parler est Picomino. C'est un jeu de Rainer Knizia, édité chez Gigamic en 2005. Rainer Knizia est un auteur prolifique, à qui l'on doit Picomino, mais également Tigre Euphrate et d'autres jeux très connus. Picomino est illustré par Doris Mateus, connu pour avoir illustré Carcassonne ou El Grande. Et le jeu est également disponible chez Philibert. Il s'agit d'un petit jeu de dés de type stop ou encore, avec de l'interaction et jouable de 2 à 7. Alors on va voir que le nombre de joueurs sera différent dans l'application numérique. Dans ce jeu, chaque joueur incarne un dindon, mais oui, un dindon, qui doit manger des asticots. Le jeu est composé de 16 tuiles avec des asticots, représentés sur la partie basse, et une valeur écrite dans la partie haute de la tuile. Les valeurs et le nombre d'asticots sont croissants. Les valeurs commencent à 21, ce qui correspond à 1 asticot, et terminent à 36, ce qui correspond à 4 asticots. Le jeu est aussi composé de 8 dés avec des chiffres de 1 à 5 et un asticot sur la dernière face. Cet asticot aura une valeur de 5. Lorsque c'est au tour du joueur, il lance les dés et il en gardera certains, puis les relancera et en gardera d'autres et il devra en garder d'autres, etc., etc. Si la somme des dés conservés atteint par exemple 25, il pourra prendre la tuile 25 si elle est disponible. Si ce n'est pas le cas, il pourra la prendre chez les tuiles visibles des autres joueurs, d'où l'interaction, ou prendre une valeur inférieure dans la zone centrale. Il placera cette tuile devant lui sur la pile des tuiles qu'il a déjà acquises. Cette tuile deviendra sa tuile visible. Alors il y a 2-3 petites subtilités évidemment. Dans les dés qu'il gardera, le joueur doit avoir au moins un asticot. Il ne pourra garder qu'un seul type de chiffre par lancé. C'est-à-dire, bah, par exemple, vous gardez genre tous les 5 avec le lancer que vous venez de faire, ou tous les 4. Et une fois que le joueur aura gardé tous les 5, bah, il ne pourra plus reprendre les 5. Donc si jamais le lancer suivant, bah, il n'y a que des 5, bah, en fait, il a perdu, il a raté son lancer. Si un joueur rate son lancer, il passe son tour et perd sa tuile visible. Également, dans la zone centrale, la tuile de valeur la plus haute est éliminée. La partie se termine quand la dernière tuile est enlevée de la zone centrale. Chaque joueur compte alors ses asticots, celui qui a la valeur la plus élevée gagne la partie. Concernant l'application, le portage sur iOS et Android a été effectué par USM, à qui l'on doit entre autres Catan. Picomino est sorti en 2015 sur les deux plateformes et ne contient pas d'achat in-app ou de pub, et son prix est de 2,99€. Alors le jeu possède un tutoriel qui est disponible et il est en français. Après avoir expliqué en quelques phrases le jeu, bah, il vous laisse jouer comme vous l'entendez, et chaque fois que vous rencontrez un cas particulier, il vous l'expliquera. C'est une des rares fois où j'ai eu à faire un tutoriel pas complètement scripté. Alors, en fait, les lancers de dés vont être les mêmes à chaque fois qu'on fera le tutoriel, mais je trouve la chose bien amenée, on a l'impression juste d'être un petit peu guidé, mais de se débrouiller tout seul. Concernant les modes de jeu, l'écran principal propose de lancer un nouveau jeu, c'est-à-dire une partie rapide contre l'IA. Il sera possible de faire une partie locale contre des IA ou de vrais joueurs, et on peut mixer les deux. Attention, par rapport au jeu de cartes, le jeu numérique ne permet de jouer qu'à un maximum de 4 joueurs. Le jeu possède 6 IA différentes de 3 niveaux de difficulté. On choisira ensuite le nombre de manches à jouer, 1, 3 ou 5. Il est également possible de jouer en ligne jusqu'à 4 joueurs. Personnellement, j'ai essayé contre un seul joueur, en fait, comme d'habitude, si vous ne connaissez pas la personne, ça peut durer assez longtemps entre les tours. Comme Picomino est censé être un jeu rapide, bah je reste un peu mitigé. En fait, le mieux reste de jouer avec d'autres joueurs sur le même réseau Wi-Fi ou en Bluetooth autour de vous. Par contre, si vous avez du temps, jouer sur Internet marche plutôt bien. Vous commencez à lancer les dés et l'application cherche un adversaire pendant ce temps-là. Quelques heures plus tard, bah, il vous le trouve et vous avertit quand celui-ci aura joué son coup, etc., etc. Alors par contre, les parties peuvent durer vraiment plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le jeu vient avec divers trophées à débloquer, rien de très compliqué à avoir. Par exemple, il faut battre toutes les IA. Mais certains sont plus difficiles, car basés uniquement sur le hasard et statistiquement faibles, du genre avoir 8 phases de dés en un seul lancer, qui fait exactement 8 asticots. Il y a également des options pour accélérer le jeu, couper la musique, changer son avatar, oui c'est un dindon, je vous le rappelle, et c'est à peu près tout. L'interface des menus est plutôt agréable, et dans le jeu je trouve que c'est vraiment bien organisé. Il y a des aides régulières et discrètes. Les animations des dindons que nous incarnons sont vraiment amusantes et réagissent au lancer de dés. Si l'adversaire vous vole une tuile, etc., etc. Une légère remarque cependant, et ça tient plutôt du détail, mais les dés rentrent un peu les uns dans les autres. Mais c'est vraiment histoire de pinailler. Voilà ce que j'en pense. Alors, il faut bien distinguer ce que je pense de l'appli et ce que je pense du jeu lui-même. Concernant l'appli, sérieusement, on est quasiment sur un sans faute. Tout est pratique, ça se joue vite. Le studio qui a fait l'appli trouve même le moyen de rajouter des petits détails qui sont vraiment sympas, tels que les animation des dindons. En revanche, avec ce type de jeu quand même pas mal basé sur le hasard, en faire une appli permet de voir rapidement les limites du jeu lui-même. En effet, je n'ai aucun mal à battre toutes les IA. Alors, peut-être qu'elles sont pas forcément extrêmement fortes, mais aussi, bah, comme il y a une énorme part de hasard, bah, on peut les battre, suffit juste de faire plusieurs parties contre elles. Il n'y aura pas trop de difficultés à y arriver. En fait, il faut autant être clair tout de suite, c'est un jeu de dés, avec absolument rien pour gérer le hasard. En gros, je lance les dés, je regarde ce qui se passe, je peux stratégiquement choisir de garder tel dé plutôt que tel autre, mais il n'y a pas vraiment de choix. Le choix va plutôt être peut-être dans l'interaction avec les autres joueurs, est-ce que je pique une tuile à l'adversaire ou est-ce que je la pique dans la partie centrale? Et encore, c'est quasiment toujours plus intéressant de le piquer à l'adversaire. Dernier point, son prix, bah, il est à 3€, ce qui le rend un peu cher, je trouve, pour ce type de jeu. Voilà, donc plutôt mitigé sur Picomino. Si vous êtes fan du jeu, bah pourquoi pas, mais voilà, je reste un petit peu mitigé, peut-être à acheter en solde. Bon, ben maintenant il ne reste plus qu'à vous dire jouez bien et à dans quelques mois.
Merci Fendoel pour cette chronique sur les plateaux numériques. Et alors Seb, tu nous parlais aussi d'un autre jeu du même auteur.
Oui, c'est ça, dans la même gamme en fait, qui s'appelle d'ailleurs toujours. Donc il s'appelait Sushi Bar et qui est ressorti tout récemment chez Gigamic avec une réédition, ils ont complètement changé le thème, qui s'appelle Pow.
Ok, et mais c'est toujours un jeu de dés. Alors, où il faut faire des combinaisons, c'est
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça, ça reste un jeu de dés où faire des combinaisons, et dans Sushi Bar on faisait des combinaisons de sushi, mm-hmm. ce qui, bon, niveau thématique, ça ne veut pas dire grand chose. Et du coup dans Pow là c'est un jeu de super-héros. Donc en fait, on se sert de CD pour faire des combinaisons de
combat.
On est des auteurs de comics en fait. Mm-hmm. Donc on fait effectivement, on prépare un comics. Donc on a des héros pour faire des, parce qu'il faut des héros, mais il faut aussi des super vilains. Donc okay. Il faut arriver à équilibrer correctement d'un côté les héros et de l'autre côté les super vilains. Donc okay. C'est un peu dans le même esprit que
Picomino.
Que Picomino. Ça reste dans la même gamme et je vous invite à l'essayer, c'est très chouette aussi.
Et c'est à partir de quel âge?
Ouais, ça se joue. J'ai pas le l'âge exact en tête, mais dans 8-9 ans, ça doit pouvoir se jouer sans problème. Ouais.
Ok.
C'est une quinzaine de minutes la partie, donc c'est vraiment facile.
Ok, bah voilà. Et ça, on peut l'emmener à la plage, c'est juste des. Ça s'envole pas, ça, les dés et les.
Non,
et
ça s'envole pas.
Ça, c'est,
alors,
dans
Sushi Bar, c'était des grosses. Des jetons en bakélite. Dans Pau, maintenant, c'est des grosses tuiles en carton. Alors, c'est du carton épais, mais c'est du carton. Donc, il ne faut pas le mouiller non plus.
Ok. Donc, maintenant, on va passer à toi, Seb. Donc, tu nous parles de...
De Karuba.
De Karuba.
Ouais. Un jeu à bas.
Un jeu à bas.
Mais pas que pour les enfants. Ah. D'ailleurs,
il n'avait pas été nominé
si, en 2016, hein. Oui. J'en parle un peu dans la chronique, aux côtés de Codenames.
Okay.
Qui l'a remporté, puis du mob.
Ah, c'était dans la catégorie Rennes.
Oui, c'est ça. Donc, effectivement, okay. C'est un jeu à bas, mais avec une nouvelle collection. Je crois que c'est le premier jeu de la collection qui s'appelait la collection Soirée-jeu, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas la boîte sous les yeux. Mais donc, il est plus destiné, donc pas aux enfants, plutôt aux grands-enfants, aux ados et aux adultes.
Non, okay. C'est marrant parce que quand le jeu était sorti, il était chez Philibert, mais dans la boutique pour les enfants.
Ah
ouais, c'est chez le Philibert des petits là, chez Brin d'Herbe.
Ouais, c'est ça.
Et j'avais été étonné du coup de le retrouver, puisque bon, j'avais pas vraiment regardé la fiche de jeu, mais de le retrouver du coup nommé dans la catégorie Pion Rouge
pas Kinder,
et pas pour le Kinder. Ouais.
Alors on le reconnaît facilement, enfin dans la gamme à bas, parce qu'il.
C'est de la plus grande boîte qu'ils ont, non?
Est-ce qu'il est
peut-être
jaune?
Pas, parce que non, justement, il n'est pas jaune.
C'est ça.
Ouais, il n'est pas jaune.
Il y a des petites nuances de brun et de jaune, mais c'est,
ah bah,
c'est pas.
Peut-être de s'ouvrir à autre chose, quoi.
Il y a quelques autres dans cette collection que j'ai pas essayé, mais celui-là il est.
C'est vrai que face à Codename, voilà, il est peut-être un peu passé sous silence, quoi, donc c'est bien de nous le rappeler, et donc on va écouter cette chronique tout de suite.
C'est parti.
Bonjour aux exploratrices et aux explorateurs. Préparez votre sac à dos, aspergez-vous de répulsifs à moustiques et surtout, n'oubliez pas votre machette, car aujourd'hui, je vous emmène dans les jungles sud-américaines à la recherche des temples perdus de l'île de Karuba. Karuba est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, de Rudiger Dorn, illustré par Klaus Stefan et édité par Abba. Il est disponible chez Philibert au prix de 33,95€. Dans Karuba, chaque joueur a devant lui un plateau individuel quadrillé représentant l'île. D'un côté, la plage, où débarquent les 4 explorateurs. À l'opposé, la jungle, qui abrite les temples de la même couleur que les explorateurs. Tous les pions de tous les joueurs sont placés exactement aux mêmes coordonnées. Chaque joueur dispose également de 36 plaquettes numérotées, représentant des chemins à 2, 3 ou 4 connexions. À chaque tour, un des joueurs, toujours le même, pioche au hasard l'une de ces plaquettes numérotées, et tous les autres joueurs piochent le même numéro. Toutes les plaquettes d'un même numéro sont identiques. Les joueurs placent ensuite cette plaquette sur leur plateau individuel en suivant quelques petites restrictions. Petit à petit, les sentiers se forment, le but étant de se frayer un chemin à travers la jungle pour permettre aux explorateurs de rejoindre le temple de leur couleur. Plutôt que de placer une tuile, on peut aussi choisir de la défausser et ainsi faire avancer l'un de ses explorateurs d'un nombre de cases égal aux connexions de la tuile défaussée. Par exemple, une tuile avec 3 connexions permet d'avancer jusqu'à 3 cases. Dès qu'un explorateur atteint le temple de sa couleur, le joueur prend le trésor de plus grande valeur de celui-ci. Il y a autant de trésors que de joueurs dans chaque temple, mais de valeur décroissante. Ainsi, le premier explorateur à atteindre son temple marque plus de points que le deuxième, qui en marque plus que le troisième, etc. La partie s'arrête quand toutes les tuiles ont été posées, ou dès qu'un joueur a exploré ses 4 temples. Chacun additionne alors les points de ses trésors, et y ajoute les points des diamants et des pépites d'or qu'il a pu glaner sur certaines tuiles. Bien qu'édité par Abba, Karuba n'est pas réservé aux enfants, bien au contraire. J'en ai déjà fait de nombreuses parties, le plus souvent entre adultes, et je ne m'en lasse pas. Karuba est un jeu parfaitement symétrique. Tous les joueurs disposent exactement des mêmes éléments, aussi bien en début qu'en cours de partie. Et ce sont les décisions prises par chacun au fil du jeu qui font la différence. Il faut bien analyser les positions des explorateurs et des temples en début de partie pour se dessiner un sentier mental parfait, nécessitant le moins de tuiles possible. Bien évidemment, le hasard vient mettre son grain de sel, et les tuiles arrivent rarement dans le bon ordre. Il faut aussi se souvenir qu'il s'agit d'une course. Il faut arriver avant les autres au temple, et pour cela choisir judicieusement les tuiles à défausser. Choix difficile, puisque les tuiles avec 4 chemins, qui permettent d'avancer rapidement, sont aussi celles qui donnent le plus de latitude pour construire son sentier. Ajoutez à cela les tuiles contenant des diamants ou des pépites d'or, qui procurent des points non négligeables en fin de partie, et vous comprenez que les choix sont nombreux. Le matériel est de bonne qualité, avec des pieux en bois et du carton épais pour les tuiles et les plateaux. On peut regretter les illustrations un peu datées, dans le plus pur style de l'école allemande. Ce n'est pas dérangeant lorsque l'on joue, mais le jeu aurait mérité plus d'attention sur ce point. Bref, si vous cherchez un jeu agréable à jouer, qui fonctionne avec tous les publics, à la symétrie parfaite, sans prise de tête mais aux choix nombreux, donnez sa chance à Karuba. A noter qu'il faisait partie des nommés au Spiel des Jahres en 2016, aux côtés de Codenames et d'Imhotep. L'été arrivant à grands pas, les grosses chaleurs et les moustiques aussi, toutes les conditions sont réunies pour se mettre dans l'ambiance des jungles sud-américaines de Karuba. Donc d'ici ma prochaine chronique, explorez bien, usez de votre machette et surtout, jouez bien.
Ce que j'aime bien dans les jeux comme ça, où en fait, à la fin de la partie, tu vas construire, enfin, au cours de la partie, tu vas construire ton plateau et à la fin, tu vois quand même le tracé, enfin, ouais, que tu as élaboré. Et donc, c'est.
Ouais, t'as l'impression d'avoir fait quelque chose.
Ouais, c'est ça.
Bon, là, t'as un plateau quadrillé et puis tu poses des tuiles dessus, donc tu construis pas. C'est pas comme dans Talouva ou dans Carcassonne, mais.
Mais tu vois quand même le résultat de ton œuvre.
Ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment parfaitement symétrique. C'est-à-dire que tu places au départ tes pions. Tout le monde au même endroit et tout le monde pioche la même tuile. Et si l'un fait quelque chose, bah, ça n'a pas d'incidence sur ce que fait l'autre. Donc effectivement, tu joues un peu dans ton coin. D'ailleurs, ça, j'en ai pas parlé dans la chronique.
Mais tu peux le dire maintenant. Ouais. Ouais.
C'est la séance de rattrapage.
Chacun joue un peu dans son coin, mais par contre, c'est vraiment c'est complètement symétrique, parfaitement symétrique. Donc ça, moi, j'aime bien les jeux comme ça.
Ok, ouais. Donc chacun a les mêmes chances, quoi.
Chacun est libre de placer sa tuile identique à l'endroit où il veut sa case.
Ouais, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est un peu comme, je sais pas si vous connaissez, qui est sorti récemment en français, La Route des Vignes.
Non,
qui s'appelait Avenue en anglais.
Non, encore un jeu sur la picole.
Ouais, c'est ça. Alors là aussi le thème, mais bon, pourquoi pas. Mais ouais, en fait, oui, c'est effectivement chacun avait les mêmes chances de départ et indépendamment de ce que font les autres, tu y fais ce qu'il veut. Donc si tu perds, tu peux vraiment t'en prendre qu'à toi-même.
Ouais, sachant que là, tu as des routes différentes hein, sur chaque tuile, et alors du coup, c'est à toi de voir où est-ce que tu vas l'optimiser.
Ouais, c'est comme les chemins dans Carcassonne en fait. Il y en a des tout droits, il y en a des.
Il y a des virages, il y a des carrefours.
Des 3, des 4, c'est ça.
Ok. On va continuer avec la dernière chronique, c'est Dany qui nous fait pas de vieux jeux ce mois-ci. Enfin, elle nous parle pas d'un jeu, mais elle
a 7000 jeux en fait.
De 7000 jeux, voilà. En fait, elle est allée à l'escalageux durant ses vacances. C'est un gîte autour du jeu c'est François Hafner qui a ouvert ce gîte parce qu'il avait trop de jeux chez lui et du coup il a dit autant que ça serve à des gens et donc il a ouvert son gîte où on peut venir jouer et on va écouter Dany et François Hafner.
Bonjour à tous, c'est Dani. Je suis actuellement dans le Mâconnais, dans la commune de Saulony, et plus précisément à l'Escalageux, en compagnie des maîtres des lieux, François Havner et Chantal Balm. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour Dani.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'Escalageux et comment le lieu est né ?
Alors l'Escalageux, c'est un gîte et une ludothèque. Donc les personnes qui viennent dans le gîte ont un accès libre à la ludothèque. Le lieu est né un petit peu par hasard, c'est-à-dire qu'en fait François avait une collection de jeux très importante. Nous habitions dans la région lyonnaise et les jeux commençaient à encombrer la cave, ça s'abîmait. Et je crois qu'il était un petit peu lassé de voir ses jeux dans cet état. Et il se trouve qu'il y a eu plusieurs opportunités en même temps. François a été licencié et puis on n'avait plus d'enfants à la maison quasiment. Donc du coup, on s'est dit ben, pourquoi pas trouver un endroit où on peut faire vivre ces jeux. Donc on s'est mis à chercher une maison dans la région. On est arrivé dans le Mâconnais par hasard parce qu'on n'a pas trouvé dans les régions où on cherchait initialement. Du coup, on est tombé par hasard sur cette maison qui tout de suite nous a plu parce qu'on a tout de suite vu qu'il était possible d'y aménager plein de choses, que ça correspondait à ce qu'on cherchait. Et vas-y.
Voilà, il fallait que le lieu permette d'accueillir à la fois nous, les jeux et des locataires. Oui. Donc et en même temps qu'on ne se marche pas les uns sur les autres. Donc on a trouvé une maison avec plusieurs petits bâtiments qui à la fois peuvent communiquer mais peuvent aussi être coupés les uns des autres si on veut de l'intimité.
Et du coup, en termes de locataires, la capacité d'accueil ?
Alors la capacité d'accueil, on l'a montée au maximum agréable, c'est-à-dire 15 personnes. Au-delà de 15, on rentre dans des nouvelles considérations juridiques et avec établissement recevant du public, donc plan incliné, extincteur, etc., etc. C'est très compliqué. Et en plus, 15 me semble bien. Au-delà de 15, il y a moins de convivialité.
Si je me souviens bien, il y a plusieurs formules. Oui, on n'est pas obligé de venir à 15.
Voilà. Alors en fait, on a pu articuler, les locaux nous ont permis ça. On a pu articuler, on a créé un petit studio qui peut accueillir 2 personnes. On a un appartement qui peut accueillir jusqu'à 15 personnes, avec 3 chambres. Et on a entre les deux une chambre.
Jusqu'à 10 personnes là-bas.
Jusqu'à 10. Et entre les deux, on a une chambre qui peut se raccorder soit au studio pour le transformer en logement pour 5 personnes, soit à l'appartement pour faire l'escalade 13 pour 13 personnes, soit on regroupe tout ça et ça fait 15 personnes.
Et en plus, la chambre de 3 peut aussi se raccorder à notre appartement quand nos enfants viennent.
Ce qui est pas mal. Quand les oiseaux sont partis du nid, ils y reviennent quand même
de temps en temps. Ils font quelques allers-retours.
Si on parle un petit peu des visiteurs, quel type de visiteurs vous avez ? Est-ce que c'est tous des gros joueurs fondus de jeux de société ? Ou est-ce que vous avez à l'extrême des gens qui atterrissent là par hasard ?
Alors on a essentiellement quand même des joueurs, oui. Je dirais 80% c'est des joueurs.
90%, oui.
Et on a aussi par hasard des gens qui viennent là pour autre chose, parce que le gîte est grand et qu'il n'y a pas tellement de gîtes. Je crois que dans la Bourgogne, il doit y avoir 3 ou 4 gîtes qui peuvent accueillir 15 personnes. Il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, on accueille des enterrements de vie de garçons, des enterrements de vie de jeunes filles et tout, autour de différentes activités. Alors, les jeux en font partie, mais souvent, c'est des gens qui arrivent ici et qui connaissent uniquement les jeux qu'on voit en supermarché. Et puis qui découvrent qu'il y a d'autres jeux. Alors des fois, on leur fait découvrir d'autres jeux. Puis du coup, ils se disent, bah tiens, c'est pas inintéressant.
Oui. Il y a des nouveaux joueurs qui naissent à Saulony, peut-être.
Oui, enfin, il y a des gens qui sont très joueurs, mais qui ne connaissent que les jeux de supermarché, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a autre chose. Et quand ils découvrent autre chose, bah, ils y passent assez facilement.
On a rarement eu des gens qui n'ont pas joué, même s'ils n'étaient pas joueurs au départ.
Depuis combien de temps c'est ouvert, l'Escalageux ?
C'est ouvert depuis avril 2014. En fait, on est arrivé ici, nous, en mai 2013, et on a ouvert un an après parce qu'on a fait pas mal de travaux.
Voilà. Donc, ça fait 2 ans et demi.
Voilà, 2 ans et demi, oui.
Et est-ce que vous êtes content du taux d'occupation, si on parle un peu avec des termes touristiques ?
Oui, on est très content du taux d'occupation parce que moi, j'aurais jamais pensé que ça marche aussi vite, quoi, en fait.
Quels sont les jeux qui sortent le plus ou qu'on vous demande le plus ?
Alors, parfois, des gens vont regarder avant sur le site pour savoir les jeux qui sont là. Ils regardent les nouveautés, ils arrivent avec la liste des jeux auxquels ils veulent jouer. Sinon, quand ils ne savent pas trop à quoi ils veulent jouer, généralement, les demandes ne tournent pas autour d'un type de jeu. Ils demandent pas un jeu en particulier, ils demandent un type de jeu. C'est-à-dire qu'ils me disent, qu'est-ce que vous avez comme jeu qui peut se jouer à 8 ou qu'est-ce que vous avez comme jeu qui dure un quart d'heure Donc, c'est plus dans ce type de demande qu'on est. Mais ils ne sont pas là en demandant, est-ce que vous avez tel jeu ? Parce que ça, ils savent que je l'ai ou je ne l'ai pas.
Donc ça veut dire qu'il y a... C'est vrai que derrière, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais derrière l'Escalageux, il y a aussi Jeux Sos. oui. qui est quand même un gros site de jeux de société qui est très bien référencé, en tout cas, qui remonte très bien sous Google quand on fait des recherches sur les jeux de société. Je pense qu'il y a une grosse communauté derrière, ou en tout cas qu'il y a
oui,
pas mal de visites.
Communauté, non, parce que j'aime pas trop ce terme de communauté. Je veux dire, pour donner un exemple bête, hein, je veux dire, on parle toujours de gros sites de jeux. Je m'étais amusé une fois à me mettre à l'entrée de la boutique de mon ami Thierry, qui tient la boutique Jeux des Cartes à Lyon. Et on s'était amusé à compter, à demander aux gens qui rentraient quels étaient les s'ils connaissaient un site internet qui parle de jeux. Il y avait à peu près, dans les gens qui rentraient dans le magasin spécialisé, il y avait à peu près une personne sur 10 qui était capable de citer un site internet. Mais c'est normal, moi j'aime bien les pizzas, je suis jamais allé sur un site internet qui parle de pizza.
Oui, oui, comme ça. Ben oui. Bon, ça s'est peut-être développé un petit peu, un petit peu depuis.
Oui, non mais il y a quelques personnes qui vont sur les sites internet, c'est pas... Oui, bien sûr, j'ai beaucoup de gens qui viennent, j'ai beaucoup de visites, mais des gens qui arrivent un peu par hasard, puis qui découvrent autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand je regarde, parce qu'il y a des statistiques sympathiques qui permettent de savoir, les gens qui arrivent sur mon site, en y arrivant par des moteurs de recherche, ils y arrivent avec les plus grands classiques. C'est-à-dire qu'ils y arrivent par la bonne paye, par des choses comme ça. Oui, parce qu'en fait, c'est des gens généralement qui ont trouvé, mettons, la bonne paye en vide grenier, et il n'y a pas la règle dans la boîte, alors ils cherchent la règle, et oh, ils tombent sur mon site. C'est ça qui fait arriver les gens. Alors ce qui est sympa, c'est qu'après, on voit les pages par lesquelles ils ressortent, et là, c'est pas les mêmes, ils ont été voir d'autres choses. Mais autrement, c'est les classiques qui les font arriver, c'est Triomino, Bonne Paye, etc. Hein, c'est ça, quoi.
Est-ce que dans l'occupation de l'escalageux, JeuxSos a sa place? L'idée que j'ai, c'est est-ce que la visibilité qu'a l'escalageux au travers JeuxSos, parce que c'est en introduction des règles de jeu, il y a... Enfin, c'est référencé. Est-ce que ça joue?
C'est l'idée pub qu'on a eue, mais qui me semble efficace. C'est toutes les règles de jeu sont précédées par une petite page de publicité pour l'escalageux. Ça coûte rien et on a beaucoup de gens qui arrivent à l'escalageux par ce biais.
La majorité.
Oui. Et ça c'est une bonne chose. Ouais. Oui. Ouais. Maintenant il y a des joueurs qui viennent, des gens qui font partie de clubs de jeux, etc., qui arrivent ici, qui viennent à l'escalageux et qui découvrent une fois ici que je suis également le webmaster de JeuxSos.
D'accord.
Non, c'est pas...
C'est une bonne surprise, du coup, ça doit être marrant.
Oui.
Au centre de l'escalageux, il y a la collection de jeux. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres?
Alors, pour se rendre compte un petit peu, alors par exemple, les jeux sont rangés par ordre alpha numérique, ce que j'appelle alpha cubique. J'appelle ça alpha cubique, c'est-à-dire première lettre du nom du jeu, ensuite par paille de boîte pour pas que ça tombe. Parce que j'ai remarqué que si on mettait les loups-garous et au-dessus qu'on mettait Libertalia, ça ne tenait pas. Oui. Donc les jeux sont tous à plat, sur des étagères, et les petits jeux sont rangés dans des tiroirs. Donc pour donner une idée, les tiroirs de jeux, qui sont des tiroirs qui font 60 par 60 cm, il y en a 38. Ça donne un peu une idée, parce qu'il y a beaucoup de petits jeux, en fait on oublie les tout petits jeux, mais il y a des tout petits jeux qui sont géants, hein, comme Bonanza, Mamma Mia, c'est des jeux petits mais géants. Alors aujourd'hui, on me demande le nombre de jeux, alors... Ça dépend ce qu'on appelle jeu, en fait. Moi, je parle de... Pour moi, un jeu, c'est une règle.
C'est une règle,
ouais. Oui. Donc, par exemple, Cluedo ou Cluedo-Sherlock, c'est le même jeu, pour moi. Donc, c'est un.
Ou les 15 ou 20 versions de Trivial Pursuit, c'est un jeu.
C'est un jeu, pour moi. Après, Cluedo et Super Cluedo, c'est pas le même jeu. Parce qu'il y a des règles différentes, oui. Donc, pour moi, c'est deux jeux. Après, on peut parler. Par exemple, il y a Monopoly Trader, c'est des jeux différents, oui. Mais tous les Monopoly qui ont pu être déclinés, ou tous les Trivial Pursuit qui ont pu être déclinés, c'est un seul jeu pour moi. Donc, en partant de là, on va estimer qu'il y a à peu près un peu plus de 7000 jeux différents dans la ludothèque. Et puis, en même temps, dans certaines boîtes, il y a plusieurs jeux.
Combien de boîtes?
En boîte, il y en a plus que ça. En boîte, il y en a peut-être un peu plus de 8000, je sais pas, mais. Parce qu'il y a certains jeux qui sont en plein d'exemplaires, mais dans la ludothèque, il y en a un seul en principe. Mais les autres sont des fois en stockés ailleurs ou autre.
Et en termes de capacité, t'as encore de la place? Parce qu'il y en a deux, il y en a qui sortent tous les ans.
Alors en termes de capacité, oui. En termes de capacité, idéalement, il faudrait enlever des jeux. Mais bon, alors j'ai commencé à faire quelque chose qui, au début, me chagrinait. C'est commencer à supprimer tous les doublons d'édition. Il y a des collectionneurs de boîtes de jeux qui veulent absolument garder toutes les éditions d'un jeu. Et j'ai des amis comme ça qui sont très contents d'avoir 7 ou 8 éditions différentes du même jeu. Moi, si j'ai une boîte de long cours, ça me va. Oui, j'ai pas besoin d'avoir 18 boîtes de long cours. Alors par exemple, dernièrement, ça m'embêtait un peu, mais je me suis séparé de mon magnifique Mexica de chez Ravensburger, parce que j'ai le Mexica de chez Super Meeple, qui est tellement plus beau que c'est pas la peine que j'en ai deux, quoi.
Oui, donc, puis nécessairement, même si la ludothèque est très grande et qu'il y a beaucoup d'espace, c'est pas... Enfin, il faut c'est toujours gagner un petit peu de place, quoi.
Voilà, il n'y a pas besoin. Alors après, il y a des jeux qui sont en nombreux exemplaires, parce que c'est des jeux auxquels on peut jouer à de nombreux joueurs, comme par exemple Take It Easy, où il y a des boîtes dans le commerce, on trouve Take It Easy pour 4 joueurs, pour 6 joueurs ou pour 8 joueurs. Moi, j'ai une boîte pour 27 joueurs, parce qu'en fait, j'ai mis plein de boîtes dedans. Et du coup, on peut jouer à nombreux. Caruba, c'est pareil, j'ai mis 3 boîtes dans une, comme ça, on peut jouer à 12.
Et cette maladie de collectionnite, moi, j'appelle ça une maladie gentiment, mais je l'ai aussi, donc voilà, une petite addiction. Ça t'est venu comment? À quel moment tu t'as sauté le pas, on va dire, entre le... Je suis un joueur, j'ai beaucoup de jeux, et non, mais en fait, je suis un collectionneur.
Alors, en fait, je pense que collectionner les jeux, d'abord, c'est pas très grave. C'est quand même moins grave que de collectionner des rongeurs, par exemple, ou des choses comme ça. Mais je sais pas si... Enfin bon, tout le monde me présente comme étant un collectionneur, mais moi, je me vois plus comme passionné de jeux. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de découvrir des nouveaux jeux tout le temps, de découvrir des nouvelles règles, oui. Je suis pas intéressé par un jeu qui n'apporte rien. Si on me sort un nouveau jeu qui est le énième jeu où il faut attraper le plus vite possible le truc au milieu de la table, ça m'intéresse pas plus que ça, sauf s'il y a un mécanisme nouveau. Après, bon, d'être amateur de règles de jeu, ça passe par le fait d'avoir le jeu. Je pense pas être si malade que ça, parce que il m'est arrivé, par exemple, de me séparer de jeux que j'aimais bien parce que j'ai quelqu'un qui le voulait encore plus que moi et je lui ai donné, quoi. Ça m'est arrivé, donc je suis pas encore trop atteint, je pense.
Il y a de l'espoir.
Oui, il y a un petit espoir. Non, mais bon, c'est vrai que clairement, ça sert... Enfin bon, si je veux me regarder honnêtement, je pense que d'avoir 7000 jeux, au moins on peut se dire que c'est des choses qui servent à quelque chose. Alors que d'avoir 7000 bouchons de champagne, on n'en fait pas grand-chose, à part les regarder, quoi. Ça n'a pas de valeur, par contre. Alors, faut être clair, les jeux n'ont pas de valeur. Oui. Autant une collection de timbres ou de pins ou de ce qu'on veut, on peut trouver des objets qui ont de la valeur dans une collection de timbres. Autant dans une collection de jeux, aucun jeu n'a de valeur, soyons clairs. Quand les gens me disent, il y a tel jeu qui est vachement bien, j'ai un Full Metal Planet 9 sous blister et tout, je dis, bah oui, mais un Full Metal Planet 9 sous blister, tu vas le vendre au mieux 250€, ce qui est le prix d'une médiocre toile. C'est une aquarelle sympa, c'est 250€, quoi. Donc, un jeu le plus cher, il coûte le prix d'un timbre minable dans une collection de timbres.
Oui, c'est sûr. Après, si on regarde, si tu regardes sur eBay ou sur Le Bon Coin ou sur Ocaseo, certaines tendances, ou alors c'est une offre et une demande qui met de la valeur sur des jeux.
Ce sont des phénomènes. On peut par exemple parler de, à une époque, on ne trouvait plus Ave César. Alors tout le monde voulait Ave César. Et le prix montait, et on trouvait Ave César à 60, à 80€, à 100€ sur eBay et tout. Et puis un jour, il y a un éditeur qui s'est dit, je vais rééditer avec César. Et de ce jour-là, il s'est plus vendu, quoi. Oui.
Oui. Et puis on finit toujours par trouver en vide-grenier, finalement. Au bout d'années et d'années de vide-grenier, et on tombe toujours un jour.
Oui, enfin, si on habite du côté de Strasbourg, c'est plus facile. Mais, mais sinon, on trouve, oui. Enfin, il y a certains jeux d'éditeurs qui placent essentiellement leurs produits en grande surface, où je sais qu'il suffit d'attendre 6 mois après Noël pour les trouver. D'ailleurs, quand les gens me disent « Ah, mais vous savez combien je l'ai payé ?» Je dis « Bah oui, vous devriez faire comme moi, les acheter en vide-grenier, c'est beaucoup moins cher. On attend 6 mois, mais c'est beaucoup moins cher. » Oui, alors, on trouve tout. Hein, mais alors, évidemment, en vide-grenier, on va pas trouver Agricola ni Caverna. Hein, faut que les choses soient claires, hein, c'est rare. Sauf, il m'est arrivé de trouver ce genre de jeu sur un vide-grenier en Allemagne, mais ils sont un peu bizarres, les Allemands, quand même.
Ouais, personnellement, j'ai pas encore franchi la frontière des vide-greniers, mais je pense que ça viendra.
Ah ben, nous, on a eu une expérience une fois où on était allé chercher notre fille à Karlsruhe, et on est tombé sur un vide-grenier où un vide-grenier en France, on trouve plein de jeux MB, Parker, etc. Oui. Et là-bas, c'était plein de jeux de chez Abba, de chez Goldzieber, de chez Hansinglug, etc. Dans le vide-grenier. C'était horrible. Et parce qu'en plus, j'avais droit qu'à 2 sacs parce que la voiture était pleine et on est arrivé devant un stand où quelqu'un devait vendre dans les 300 ou 400 jeux. Et que des jeux d'éditeurs allemands connus, quoi.
Donc là, c'est le choix qui devient difficile.
Bon, j'ai mis 2 heures pour remplir mes 2 sacs, mais j'ai bien choisi. Et j'ai ramené en particulier 5 ou 6 boîtes de Take It Easy pour me faire enfin un gros Take It Easy.
Au-delà de là, on a parlé un peu de valeur pécuniaire, mais finalement c'est pas le plus important pour toi dans ta collection ou dans l'ensemble de tes jeux. Quels sont ceux qui te sont le plus précieux ou auxquels t'es le plus attaché ou qui te racontent le plus une histoire?
Bah, je crois que comme tout le monde, ce sont les jeux auxquels j'ai joué quand j'étais plus jeune. Par exemple, un jeu qui va pas parler à grand monde, qui s'appelle L'Odyssée de chez Nathan. Moi, j'ai beaucoup joué à L'Odyssée de chez Nathan. Quand on regarde les règles aujourd'hui, bah, ça ressemble beaucoup à un jeu de loi, hein. Mais ça fait rien. Moi, c'est des souvenirs. Oui, c'est des souvenirs d'enfance. Donc, la plupart des gens qui viennent dans mon gîte, d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, c'est quand ils tombent sur un jeu en disant, oh, mais je jouais à ça quand j'étais petit. Oui, ils se souvenaient plus. Alors ça, c'est le bonheur. Chantal, elle pourrait parler de défense d'affichés ou des choses comme ça, oui, qui sont les jeux.
Smile, moi, j'ai un très beau Cosmile qu'on m'a donné, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs de Cosmile, alors que c'est un jeu inintéressant, en fait, hein, mais c'est vrai qu'on y jouait beaucoup enfant. Moi, je suis d'une grande famille, donc on jouait énormément. Il y avait des jeux comme ça, le Cosmile, Monopoly, bien sûr.
Constellation.
Constellation. J'ai un beau jeu de Constellation.
Bon, c'est des jeux, je vois Cosmile, c'est, on va dire, en termes de matériel, d'ouvrir une boîte, voilà, il se passe quelque chose, parce que...
Les avions sur des petits trucs, là, c'est des beaux jeux, oui.
Moi, j'ai un jeu que j'ai retrouvé, auquel je jouais quand j'étais enfant, qui était Satar Ali. C'est extraordinaire, Satar Ali. Quand on ouvre ça, alors aujourd'hui, il ne pourrait plus être édité, déjà, parce que les pions sont en plomb. Donc déjà, rien que ça, ça passe pas. Puis même, si on regarde, par exemple, dans Shopping, le jeu du shopping familial, c'est Gameplay qui fait ça. Vous avez des choses que vous ne trouvez plus aujourd'hui. Par exemple, on doit faire les courses et il faut aller acheter des cigarettes pour son papa.
Je ne vois pas du tout pourquoi ça serait plus possible aujourd'hui. On a parlé d'anciens jeux. Est-ce que dans les jeux récents, il y a un ou deux jeux qui t'ont particulièrement tapé dans l'œil?
On retrouve un peu les jeux que moi je classe dans ce que j'appelle mes coups de cœur, hein, les trois cœurs sur mon site internet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je vois un jeu et que j'y joue, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais encore l'aimer dans un an? Et il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Parce que si on écoute certains publics, ils vont dire « Oh là là, t'as vu ce jeu, c'est extraordinaire !» Mais dans 15 jours, on n'en parle plus. Dans un mois, il est remplacé par un autre. Il y a des sites internet qui vous disent « Ce jeu est extraordinaire, c'est le jeu du siècle, et le jeu du siècle sort tous les 15 jours, hein, si on les écoute bien. » J'aurais plus tendance à dire « Il faut laisser un peu de temps. » C'est-à-dire que, parlons des jeux récents, je veux bien qu'on parle des jeux d'il y a un an. Quels sont ceux qui sont sortis à SN 2015 ou à SN 2014 et qui, aujourd'hui, se sont installés et sont encore là? Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns, mais dans des genres très particuliers. Moi, je pense, par exemple, dans mes derniers coups de cœur récents, je crois que Baronnie est un chef-d'œuvre pour moi. D'ailleurs, je suis très content et je remercie Matago qui m'a fait parvenir un Baronnie géant. Alors là, ça, c'est encore mieux. Hein, il suffit d'avoir une table de ping-pong pour y jouer.
Oui, parce que ça, c'est une des particularités aussi de l'escalageux, c'est qu'il y a quand même pas mal de jeux surdimensionnés. Ça, c'est une spécificité, c'est dur de les trouver. Donc c'est...
Oui, alors, en jeu surdimensionné, quand on parle de jeux surdimensionnés, généralement, on parle toujours de jeux d'adresse. La plupart du temps, on parle de jeux d'adresse, c'est-à-dire qu'on va parler d'excellents jeux comme Pastrap ou des choses comme ça. À côté de ça, on voit dans les animations, dans les festivals, il y a des fois des jeux géants de la gamme Gigamic, par exemple des Quarto, des Kiwi, des choses comme ça. Moi, j'ai une petite tendance à aller vers les vrais jeux de société, oui, avec des pions, des cartes, des choses comme ça, et qui se jouent en grand parce que ça rajoute une dimension, quoi. Et j'avoue que j'ai quelques jeux comme ça. Bon, bien sûr, j'ai mon bel exemplaire de Macabana. J'ai le Taillu géant qui est extraordinaire. J'ai Diam géant, des choses comme ça. J'aime bien Marrakech géant. Après, à côté, on a des plus classiques comme Quarto, Abalone, etc. Mais ces jeux-là, je trouve que ça apporte une dimension. Alors, surtout l'été, quand on peut jouer dans le jardin, quand on étale un jeu d'échecs géant dans le jardin, quand on sort le fou volant pour 8 joueurs et qu'on le pose sur la table du jardin, c'est quelque chose.
Merci à vous pour cette interview. Je vous souhaite une très bonne continuation. Et à tous nos auditeurs et peut-être futurs visiteurs de l'escalageux, jouez bien!
Merci Dany pour cette interview. On l'a fait travailler même pendant ses vacances. Et donc, Maxime, c'est où, toi, qui es féru de géographie?
Alors, l'escalageux se situe à Solony, donc c'est en Bourgogne. Si vous êtes à proximité de Mâcon, n'hésitez pas à vous arrêter. On va vous laisser également l'adresse du site internet sur lequel vous avez la possibilité de voir les disponibilités, éventuellement de réserver. Donc, c'est cité dans la chronique, le gîte peut accueillir jusqu'à 15 personnes. Et 7000 jeux, donc vous comptez le nombre de parties possibles par personne sur le temps où vous souhaitez rester. Donc vous avez l'embarras du choix.
Voilà. C'est juste un peu trop petit pour le week-end proxy jeu.
Ouais, c'est un peu dommage, hein, parce qu'on n'aurait même pas besoin de ramener nos jeux. Tu vois, il y aurait tout sur place déjà.
Et vous faites des vacances jeux ou pas forcément? Ou vous jouez plus en vacances ou pas?
Oh non, moi c'est le contraire. En vacances, je joue moins.
Tu joues moins?
Un petit peu avec ma femme et mon fils, mais beaucoup moins qu'avec les collègues et les amis.
Et toi, Max?
Ben, j'essaye de... Bon, moi, je joue
un
pas
peu plus
avec...
de temps, c'est ça.
Ouais, donc j'essaye de voir un petit peu plus de potes pour jouer, mais... Bon, mes enfants sont encore un petit peu petits. Bon, j'essaie de les initier. Bon, la grande, elle a 5 ans, donc elle commence un peu à rentrer dans la dans l'intérêt du jeu de société. Donc, toi, tu as commencé avec ton fils à quel âge à lui proposer des jeux?
Alors là, il a 11 ans. Pardon. Et j'ai commencé vraiment très tôt, avec vraiment les jeux de base au départ. Donc, le Verger.
On a commencé avec tout de suite Race for the Galaxy à 2 ans.
Race for the Galaxy. au moins, c'est un peu dangereux à 2 ans. C'est ça. Ouais, ça date, hein, je me souviens plus trop, mais effectivement, c'est lui qui était demandeur finalement. Donc, je lui ai proposé au début, puis après, faut pas insister s'ils ont pas envie.
Ouais. À force de devoir jouer, quoi.
C'est ça. À force de voir les boîtes surtout.
Ouais,
au début, ils ont envie d'ouvrir les boîtes de papa.
Et de mélanger tout ce qu'il y a à l'intérieur.
C'est ça. De temps en temps, je la fais dépuncher.
Ça, ils aiment bien.
Ouais.
Ouais. Ouais, mais moi aussi, j'aime bien ça.
Oui, nous aussi, oui. Bon.
Non, mais tu prends un jeu, tu sais, où au bout d'un moment, t'en as vraiment marre. Genre un jeu GMT où t'en peux plus de dépuncher
les
petits pions qui font 0,5.
En plus, ils ont
0,5.
Des petits doigts, ça rentre mieux dans les, les punch boards. Ok.
Et sinon, quand des fois je fais un peu de classement dans une boîte, ils aiment bien mettre les pions, les petits cubes dans les petits sachets zip. Tu vois, ça les occupe.
Ah, mais
aussi.
Attends, j'ai plein de jeux à ranger. Tu peux me prêter tes enfants pour ranger les jeux.
Ils vont venir en vacances, j'ai des déchets.
C'est ça, ouais. C'est ça. Tu les héberges un week-end.
Voilà. Pour en ranger dans les petits ziplocs chaque fois.
Mais ouais, sinon, mon épouse, elle est pas très très fan de jeux. Donc, des fois, j'essaie de trouver des jeux avec des thématiques qui pourraient l'intéresser, mais pour le moment, c'était pas un franc succès.
Ok.
Et les jeux coopératifs qui marchent bien dans ce cas-là.
Ouais.
C'est comme ça que j'arrive à faire jouer mon épouse.
Tu l'as fait jouer à quoi? Pandémie
Alors, on a fait énormément de parties de Pandémie.
Ouais.
Au point que j'en pouvais plus, en fait, à la fin. j'avais pas compté depuis le début, mais à partir du moment où j'ai commencé à compter, on en a fait pas loin de 70.
Ah ouais,
à deux. Même. Donc, au bout d'un moment.
Sur la version normale?
Sur la version normale, ouais.
Mais du coup, ça devient un peu trop facile à la fin.
Non, parce qu'on montait dans les niveaux et puis j'avais pris l'extension qui rajoutait quand même pas mal de difficultés. Mais. Ouais, au bout d'un moment, je commençais un peu à saturer. Ouais, la cinquième maladie, les mutations, etc.
Ouais. Ok.
Mais du coup, ça marche bien. Et puis du coup, quand tes enfants seront plus grands, les jeux coopératifs, ça fonctionne bien.
Mm-hmm. Ouais.
Et t'as aussi joué à l'île interdite ou le désert interdit?
Ouais, l'île interdite, plutôt avec mon fils, du coup. Quand la pandémie, c'était encore un peu trop compliqué.
Et toi, Dédé, t'as prévu de jouer un petit peu pendant ces vacances?
Ouais, moi je fais en famille avec mes frangins qui sont aussi assez joueurs. Donc on va faire des petits jeux sympathiques, quoi. Mon frangin est aussi très fan de Dead of Winter, donc on va sûrement faire. Et puis ça rafraîchit, en fait, Dead of Winter, quand il fait chaud, tu vois les gens qui ont froid et tout ça, tu dis ah, t'as des cartes de neige et tu fais ah, c'est cool.
C'est ça, alors que t'as les glaçons dans les verres. Et
voilà,
puis, ah,
c'est ça.
Ah, les pauvres, hein, quand même, ils devaient souffrir.
Ouais. C'est ça. Ouais, bah donc, nous, on va vous souhaiter de bonnes vacances, même si on reste avec vous au travers des différents podcasts qu'on va faire durant cet été. Mais c'est un peu c'est comme sur les chaînes de télé, c'est plus les mêmes programmes pendant l'été.
C'est ça, on va mettre les best-of ou les trucs comme ça.
Voilà,
les rediffs.
On va mettre les rediffs. Alors, si vous écoutez une rediff de Hélène et les garçons, c'est pas ça.
Ouais, donc on va essayer de vous diffuser toutes les interviews qu'on a fait pendant Brésil et des jeux. Comme ça, vous pourrez charger votre appareil favori pour les trajets en train ou pour les trajets en voiture des vacances.
Voilà.
Eh bien, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeux.fr, proxy avec un i, jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes, mettez-nous des commentaires et surtout parlez de vous.
Parlez de nous.
Parlez de nous plutôt. Autour de vous.
Parlez de vous autour de nous. Parlez de vous aussi, hein, si vous aimez bien ça. Parlez surtout de nous. Hein, voilà. Quand même.
Et en attendant,
jouez bien.